Les nuits de France Culture, nuit spéciale à l'occasion des Journées du Patrimoine, une nuit commencée en compagnie de Gaël Robin, architecte du patrimoine, co-gérant de la société Archipat, c'est une agence située à Lyon qui intervient, je cite, sur la valorisation du patrimoine architectural, urbain et paysager et sur l'intégration des projets dans une perspective contemporaine de développement durable. Nuit poursuivie par des archives comme il se doit dans les nuits de France Culture. On a pu entendre Ce soir en France, c'est un reportage aux grottes de Lascaux de Michel Droit, c'était en 1948 sur la chaîne parisienne, puis une tribune de Paris consacrée à l'exploitation du patrimoine naturel et monumental de la France. C'était un débat animé par Paul Guimard en 1946 sur la chaîne nationale. Puis Paris vous parle, sauvetage du château de Versailles, un appel lancé par André Cornu en 1952 sur la chaîne nationale pour, eh bien ouais, pour sauver le château de Versailles. Édition spéciale chef-d'œuvre en péril, lutter contre les ventes d'objets d'art, puis faut-il retirer aux communes la garde des œuvres d'art? C'est une deux émissions de Pierre de la Garde, diffusée en 1962 sur France 2 régionale. On a pu suivre des lieux de mémoire consacrés par Jacques Munier en 1999 à Viollet-le-Duc. Et à l'instant, Appel d'air, le tourisme industriel, émission de Marie-Hélène Fraissé. Toutes ces émissions sont à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Mais pas tout de suite, puisque nous recevons Mohamed Bekkada. Bonsoir Mohamed Bekkada.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors, si quelqu'un a une connaissance corporelle, musculaire même, du patrimoine de la France, c'est bien vous, Mohamed Bekkada, si l'on en croit, et je le crois, votre récit qui s'intitule « Ma France méconnue », sous-titré « 6645 kilomètres à pied à la découverte de notre patrimoine », édition Michel Lafon. C'est un livre qui vient de reparaître chez Pocket. En tout cas, alors, connaissance du patrimoine, d'une partie du patrimoine, celle des franges de la France, si l'on peut dire, parce que c'est un véritable tour de la France que vous avez accompli il y a quelques années par les côtes et par les frontières. Alors, je disais une connaissance musculaire, corporelle, mais évidemment, avant tout, intellectuelle, culturelle, affective, sans doute.
Oui, voilà, affective, puisque je suis très très attaché à l'histoire de mon pays, la France. Musculaire, parce que j'ai dû faire quand même 6647, les 7 kilomètres sont très importants,
6647. Vous êtes sûr, parce que je vois 6645 sur le...
45, bon, j'ai rajouté 2 kilomètres, ouais, mais 6645.
On se vante tout de suite.
En tractant une charrette de plus de 60 kilos à la découverte du patrimoine historique et aussi intellectuel, car je suis allé à la rencontre des élus, de la population, des associations, et aussi à la rencontre directe du patrimoine historique, du petit patrimoine entre guillemets.
Mmh. Alors c'est une découverte. Vous êtes archéologue, vous êtes quoi? Vous définissez comment? Aventurier?
Aventurier et passionné. J'ai fait des études d'histoire et d'archéologie. Aujourd'hui, je suis professeur dans un lycée, mais je suis avant tout aventurier et curieux de l'histoire de notre pays.
Alors, il fallait vraiment que vous aimiez ce patrimoine, en effet, pour faire tout cela, parce que c'était une espèce de folie sportive. Mais en fait, vous auriez pu faire ça à cheval, à vélo, en voiture, en deltaplane, je ne sais comment, mais pourquoi à pied?
Alors, pas de chance, déjà, je suis allergique aux poils de cheval. À vélo, j'ai hésité, mais bon, c'était pas assez surprenant. Il fallait saisir les consciences des élus et de chacun sur la préservation du patrimoine. Donc, le meilleur moyen de locomotion pour visualiser notre patrimoine, pour s'en imprégner, c'était la marche. C'est pourquoi j'ai choisi d'utiliser mes godasses, mes pieds et ma charrette pour faire ces 6600 kilomètres.
Alors vous avez voulu quand même un rite, vous êtes parti un 1er janvier, vous avez décidé que vous arriveriez à la fin de cette année, évidemment, si possible avant le 31 décembre.
Oui. Alors je m'étais fixé en 2012, j'ai commencé à écrire ce projet, donc la carte et tout le matériel qu'il fallait, me préparer physiquement, psychologiquement aussi, hein, c'est très important. Donc je suis parti, j'ai démarré sous la Tour Eiffel comme un signe, un symbole, le 1er janvier 2014, et il fallait que je rentre sous cette Tour Eiffel après avoir fait la boucle avant le 31 décembre 2014.
Et alors, donc, vous aviez étudié depuis des mois et des mois. Que faisiez-vous? Comment prépariez-vous ce voyage, ce trajet, cette espèce de marche initiatique peut-être? Vous alliez à la découverte de lieux que vous ne connaissiez pas.
Tout à fait. Donc la préparation, elle a été physique, donc de la marche tous les jours, d'exercices musculaires, physiques, à tracter du poids, à monter des montagnes, etc. Mais aussi culturel et aussi, je dirais, logistique. Donc il fallait cibler les 500 communes que j'allais visiter, des communes qui dépendaient, mon choix dépendait principalement de trois critères. Il fallait que les communes soient sur le pourtour de France, le contour de France. Il fallait qu'elles ne soient pas éloignées de plus de 37 km et il fallait qu'elles aient surtout un attrait historique patrimonial.
Alors donc vous avez fait ça comment? Sur ordinateur, vous avez cherché de ci, de là, de ce qui pouvait vous intéresser, ce qui pouvait correspondre à votre envie de découvrir un patrimoine?
Alors grâce à mes études, j'ai eu beaucoup d'acquis sur ce plan-là, sur ce domaine. J'ai acheté les cartes de France et j'ai commencé à surligner grâce à mon marqueur les endroits les plus importants et à mesurer le nombre de kilomètres, des distances entre les communes. Ça m'a pris ce travail logistique, je dirais bien 3-4 mois. 3-4 mois de travail sur des cartes, sur internet, sur mes ouvrages, jusqu'à avoir le plan. Pendant une année, le plan, les destinations et toute la carte.
Mais pas exactement, vous ne disiez pas le 13 avril, je serai à tel village, le 14 mai à un autre, etc. C'est à ce point?
Alors, à ce point-là, parce que parfois les élus, comme vous le verrez, m'accueillaient souvent, donc il ne fallait pas que je sois trop en retard de trop de jours. Et que si on prenait trop de retard, notamment quand on apprécie une commune, on a envie d'y rester plusieurs jours, voire des semaines, il fallait se forcer à bouger et être à un point bien précis, à une date bien précise.
Alors vous l'avez dit, Mohamed Bekada, il y a les élus dans l'histoire du patrimoine. Et votre définition, et c'est heureux, du patrimoine est assez large, parce qu'il y a évidemment le patrimoine, il y a le bâti, il y a le ruiné, il y a le culinaire aussi l'onomastique, c'est-à-dire qu'un joli nom de village, eh bien ça peut vous faire un détour de 30 kilomètres.
Tout à fait, il y a différents patrimoines, qu'ils soient visuels ou sensoriels, qu'on peut découvrir. J'ai privilégié au départ le patrimoine historique, bâti, et j'ai découvert au fil des jours et au fil des mois qu'il y avait plusieurs patrimoines, notamment en gastronomie, culinaire. Je me suis régalé en Bretagne et dans le sud-ouest.
Et des carottes.
Et des carottes, oui, en Normandie, en Bretagne. C'est vrai que j'ai eu la chance de goûter à nos régions. Goûter la cuisine de nos régions. Et ça reste un très, très bon souvenir.
Alors, vous avez aussi goûté, Mohamed Bekada, aux relations avec les élus. Parce que vous nous l'avez dit, donc par mail, j'imagine, comme ça, vous avez envoyé des courriels nombreux à toutes les municipalités, enfin, tous les villages que vous alliez traverser. Pourquoi donc? Vous ne vouliez pas arriver comme un cheminot, comme ça, qu'on allait caillasser parce qu'il faisait peur?
J'ai souhaité entrer en contact avec les élus pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont eux souvent qui ont le dernier mot sur le patrimoine, qui apposent la dernière signature. Ce sont aussi les municipalités qui peuvent me mettre en contact avec les associations qui œuvrent tous les jours pour le patrimoine et aussi avec les écoles pour essayer de sensibiliser. Donc j'ai envoyé 536 courriers à nos élus, aux 536 communes que j'allais visiter. Je n'ai reçu qu'une vingtaine de réponses, je crois, dont la moitié était négative. Donc j'ai eu très très peu de réponses. Et en arrivant sur place, les élus ont cru à un canular, ou parfois n'étaient pas d'accord, ou ne n'ont pas reçu le courrier. J'ai eu plein de raisons et d'excuses possibles et inimaginables.
D'ailleurs, vous balancez beaucoup dans Ma France Méconnue, Mohamed Bekada. Donc, c'est bien parce que tout le monde, gentiment, oui. mais quand même, quand les maires ou les adjoints aux maires qui vous répondent pas, qui ne vous ont pas répondu, qui vous accueillent plus ou moins bien, comment vous expliquez ça? Parce que le patrimoine, ça appartient à une mairie, à une commune. Mm-hmm. Ça appartient à tout le monde aussi. Donc, tout le monde a le droit de venir vérifier si ce patrimoine est bien entretenu, mais vous faites peut-être peur un peu.
Voilà, on vient aussi un peu déranger les pratiques, les habitudes de certaines communes vis-à-vis du patrimoine. Moi, je ne viens pas en tant que messie ou en tant que donneur de conseils. Attention, je viens pour, comme un touriste, essayer de
Vous n'êtes pas un inspecteur.
Voilà, je ne suis pas un inspecteur. Je viens observer la beauté du patrimoine qui existe dans leur commune, qui est présent dans leur commune. Et je peux avoir des idées que je me suis sur lequel j'ai réfléchi à travers les kilomètres, mais les maires n'étaient pas sereins parfois à mon arrivée. Ils pensaient que j'allais provoquer en tout cas remuer une question, un sujet qui pouvait surtout que c'était les élections.
Vous avez choisi ça. Enfin bon, après le mois de mars, c'était plus simple. Mais alors, Mohamed Bekkada, quand on décide comme ça de voir, de découvrir pour l'admirer, j'imagine le patrimoine de toute une, de plusieurs régions comme ça, des franges donc de toutes les frontières, les côtes, les frontières, on se heurte. En effet, vous êtes heurté un peu aux peurs de certains élus. Bon, alors en ce week-end des journées du patrimoine, nous on sait très bien que le patrimoine c'est très important pour une région, pour un pays. C'est au contraire, tout le monde devrait conserver son patrimoine, mais le mettre en valeur et puis l'animer, mais aussi d'énormes problèmes financiers, j'imagine.
Alors malheureusement, j'utilise le terme de petit patrimoine parce que je suis allé à la rencontre du petit patrimoine. Mais petit, non pas par la grandeur de l'histoire ou par son importance, mais plus pour l'intérêt qu'on lui porte. Donc il est très petit, car il n'est pas rentable. Le patrimoine aujourd'hui est devenu un moyen de placement, je dirais, plus qu'un monument qui resterait un souvenir, qui nous permettrait de projeter dans le passé. Il y a des monuments comme à Héricourt, par exemple, où je trouve la dernière cheminée de la période industrielle, qui est malheureusement apposée sur un parking de supermarché, et qui aujourd'hui pose problème au supermarché et aussi à la mairie, qui aimerait s'en délaisser, démolir, hein, comme toutes les autres cheminées de la ville. Mais heureusement, il y a quelques associations qui militent et qui refusent de voir cette dernière cheminée disparaître. Mais le patrimoine peut être aussi un boulet pour les investisseurs, un boulet pour la commune, pour les projets de la commune et de la municipalité, hein, notamment.
Il peut y avoir aussi même une espèce de boulet historique. Enfin, je pense à Sedan, par exemple.
Tout à fait. Sedan, il s'agit du dernier monument allemand qui a été construit après la Première Guerre mondiale par les Allemands, hein, pour rendre hommage aux morts, aux soldats allemands. Et le maire de Sedan, à l'époque, souhaitait le démolir, car ce monument remémorait les mauvais moments, les mauvaises histoires du passé, notamment de la guerre franco-allemande et de ce qui est arrivé par la suite. Moi, j'ai envie de dire que le patrimoine historique, qu'il nous rappelle de belles ou de mauvaises histoires, ça reste notre passé et il faut impérativement le sauvegarder pour pas réitérer les mauvaises actions d'hier.
Et puis vous dites aussi, vous écrivez, Mohamed Bekkada, que de toute façon, ce patrimoine, bon, c'est pas aux Allemands de le sauver parce que c'est pas dans un cimetière allemand.
Oui.
Les Français ne savent pas trop. Mais vous dites aussi très très justement que par exemple tous les monuments romains qui jalonnent la France, eh bien, on va pas demander aux Italiens de sauvegarder, de rénover.
L'histoire est universelle et elle appartient aujourd'hui. Ce monument allemand appartient heureusement à la France car c'est un monument important. Il appartient aussi, d'autre part, aux Allemands parce qu'on a une histoire qui est commune. Mais on ne demandera pas aux Italiens d'aller rénover les arènes de Nîmes ou d'aller restaurer tous les patrimoines que la Rome antique nous a laissés. Ce serait un peu...
En tout cas, Mohamed Bekkada, ce qui est très intéressant dans ce livre, donc Ma France méconnue, qui est le résultat de vos 6645 kilomètres à pied à la découverte de notre patrimoine, ce qui est très intéressant, en effet, c'est que c'est ce que vous appelez le petit patrimoine, et que quand vous vous dites dès le début, je ne veux pas aller au Mont-Saint-Michel, quel intérêt, c'est un lieu que tout le monde connaît, qui aimante, vous dites, les subventions, donc en effet, autant aller dans les villages que vous avez décidé de visiter, vous arrivez épuisé généralement le soir et on comprend bien. Mais il y a soudain une petite vierge, une petite statue, une réplique de la grotte de Lourdes. Oui. Ça, je sais plus où c'est.
C'était grotte de Lourdes, c'était en Normandie.
À Créances.
Oui. Oui, c'était la fameuse ville des carottes. Vous savez, les carottes de Créances. Donc j'ai visité le patrimoine de Créances et en allant dans la ville d'après. En me dirigeant vers la ville d'après, je découvre cette réplique de la grotte de Lourdes.
Mais qu'on voit en photo dans l'édition Pocket.
Oui, tout à fait, qu'on retrouve dans l'ouvrage en couleur.
Qu'est-ce qu'elle fait là, cette grotte de Lourdes, quand même à 500
km? C'est très étrange. Pour ma part, elle était en pleine départementale, donc j'étais très surpris. Surtout qu'après, je suis allé à Lourdes et j'ai pu faire la comparaison entre les deux photos que j'avais prises, entre la grotte de Lourdes et la réplique de la grotte, qui est franchement très bien réussie.
C'est à l'identique, enfin, c'est les mêmes proportions mais...
Un peu plus petite, je dirais. Un peu plus petite.
Et plus accessible, la oui. créance. Donc,
tout à fait. Il y a quelques grillages qui nous séparent de l'entrée de la grotte, mais on aurait peut-être eu la chance de voir un saint ou une sainte.
Vous visitez aussi, il y a le bâti, vous l'avez dit, mais vous, on voit aussi beaucoup de sources. Alors, c'est vrai qu'on parlait du culinaire tout à l'heure, et il y a voilà, la nourriture, mais il y a aussi l'eau qui est aussi importante dans une vie d'homme et dans une de femme et dans une vie surtout de promeneur, parce qu'il vous faut de l'eau, vous.
Toujours.
Mais l'eau, ça peut être aussi, ça peut faire partie du patrimoine au sens où les gens du village n'ont pas tellement envie que vous preniez l'eau quand même parfois.
Alors là, on se retrouve. Déjà, l'eau est très présente dans mon parcours puisque j'ai longé le littoral, donc j'ai vu l'océan et la mer Méditerranée constamment. L'eau est présente aussi dans le patrimoine parce que il y a une fameuse eau en Normandie. Notamment dans la ville de Plancouette, tirée des sources de Plancouette, qui est une eau très très appréciée dans la région et qui est très pure, et on dit même qu'elle est imprégnée de radioactivité,
qu'elle guérirait la folie,
tout à fait. Et elle est monopolisée, en tout cas par la population, et on n'a pas le droit d'aller puiser l'eau de cette source-là sans avoir l'autorisation de la ville. Donc c'était très étrange parce que moi, bon, étant marcheur, j'ai constamment soif et on m'a gentiment offert une bouteille d'eau de cette source.
Ouais. Enfin, c'est un mélange, hein, quand on vous le dit entièrement, Bekada, d'accueil très sympathique, très souvent des gens vraiment très serviables qui vous donnent à manger, qui vous disent mais ne dormez pas sous la tente, venez chez moi, là vous aurez un bon lit, etc. Ou enfin bon, qui vous aide, qui vous propose même de d'accélérer le mouvement, mais non, vous continuez à pied. Et de gens qui sont vraiment restés, on se croirait dans un roman du 19e siècle on voit arriver quelqu'un et on ne le lapide pas, mais en tout cas, le vagabond, quoi.
Oui, j'ai eu un grand écart dans l'hospitalité. Il y a des communes et des gens que j'ai côtoyés, qui sont à Z de très bons amis aujourd'hui, qui m'ont accueilli, aidé, qui ont même voulu m'avancer en voiture. Mais je n'ai pas osé tricher. Ouais. Et il y a la seconde phase de mon parcours qui est un peu plus lugubre, un peu plus sombre. J'ai entendu des propos racistes où j'ai été attaqué pour me subtiliser mon matériel.
Mais vous vous battez là, vous avez une. Hop là, vous.
Oui,
vous,
là,
vous,
j'ai...
Deux, vous êtes attaqué par deux personnes.
Tout
et
à fait.
On se croit dans un film là, vraiment.
Oui, moi j'ai eu. En sortant de là, j'ai eu très peur, mais je me suis dit que j'avais employé les bons moyens pour. M'extraire de cette mauvaise impasse et j'ai utilisé une bombe lacrymogène que j'avais sur moi et j'ai réussi à me sauver le plus vite possible car bien évidemment mon matériel est plus important encore que ma santé à ce moment-là car sans mon matériel mon projet prend fin donc il fallait impérativement que je le défende.
Alors, il y a de méchantes personnes ou des gens mauvais qui ne vous accueillent pas, qui vous insultent. Il y a aussi des loups. Des vautours.
Tout à fait.
Alors là, c'est... on sort un petit peu du patrimoine, mais...
patrimoine,
oui.
Naturel.
Oui.
Le loup, je n'ai pas eu la chance de l'approcher de très près. Je l'ai vu descendre le col. Au début, j'ai cru que c'était un chien.
Et c'est où ça, dans le Mercantour
Oui, voilà, pas très loin du Mercantour, dans les hauteurs. Et j'ai été tétanisé quelques secondes. J'ai observé ce loup descendre. C'est après que j'ai pris conscience que c'était un loup. J'ai cru que c'était un chien, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec les canidés. Et là,
un chien berger aussi, là, on va pas trop dire ce que vous lui faites, parce que la SPA va appeler tout de suite, mais en tout cas, vous vous défendez, en tout cas.
J'ai été contraint de me défendre, malheureusement.
Enfin, il est toujours en vie, ne nous inquiétons pas. Oui. Et il y a des vautours aussi qui alors on est dans Lucky Luke.
Alors, les vautours. Les loups sont très présents dans les Alpes et ça pose parfois des problèmes, et on parle pas souvent des vautours. Les vautours sont des espèces protégées aujourd'hui. Et à force de leur donner les carcasses de du bétail qui meurt. Les bergers mettent des carcasses de moutons, de vaches en hauteur pour que les vautours puissent se nourrir. Eh bien, ils se sont développés et même trop. Donc aujourd'hui, il est interdit de leur donner à manger, mais ils cherchent de la nourriture. Ces vautours cherchent à manger.
Et vous essayez une nourriture possible.
Voilà. Ils attaquent les vaches, les chevaux, les chiens parfois, et les humains. C'est déjà arrivé, et ça m'est arrivé. J'ai dû utiliser mes bâtons de marche pour les repousser. Leur odeur est très difficile à supporter, et heureusement qu'il y avait de la circulation. Les voitures leur faisaient peur, et au bout de quelques kilomètres, j'ai pu m'en défaire.
Bien. Alors, Mohamed Bekkadeh, on va revenir au bâti, au patrimoine que l'on célèbre cette nuit et que l'on célèbre dans toute la France, puisque ce sont les journées du patrimoine. Je vais vous donner quelques noms, comme ça, et vous allez me dire ce que c'est. Les cabanes des maraîchers à Aisine. Je vous dis tous les noms, oui. Et puis vous, voilà. Bon. Les baraques de Barcarès, les grottes troglodytiques de Miramas-le-Vieux, la poudrerie royale de Saint-Chamas, le patrimoine mexicain de Barcelonnette, ça c'est un tout petit peu connu, le château de Séchilienne, les jacquemarts de l'hôtel de ville de Benfeld. Alors, la cabane des maraîchers à Aisine.
Alors, à Aisine, la cabane des maraîchers. Bon, pour beaucoup, ça ne représente pas un patrimoine. Pour beaucoup, quand je suis arrivé, ils me disaient, ici nous avons ça comme patrimoine, donc ils m'ont montré ce qu'on connaissait déjà. Et j'ai eu la chance de rencontrer le président de l'association des cabanes de maraîchers qui m'a montré que le patrimoine pouvait être différent et qu'il pouvait être lié à une pratique, à un métier. Donc c'est ce que j'ai découvert. Ils ont ouvert aujourd'hui à Aisine même un musée des maraîchers avec tous les outils qu'utilisaient les maraîchers. Et il en reste très peu. Donc j'étais moi-même inquiet. En partant d'Aisine, je crois qu'il en reste deux ou trois, mais sans être sans reproduction, hein, deux trois cabanes, notamment une que j'ai pu visiter avec des journalistes et avec le président de l'association, qui est en parfait état, mais qui subit parfois la météo pas clémente et les destructions, le vandalisme aussi peut être présent et il faut rester vigilant.
Vous voyez souvent, en fait, Mohamed Bekkadeh, que certaines personnes du coin, bon bah finalement, je sais pas, il y a une abbaye qui est en restauration et il y a des gamins qui sont en train de jouer au football, qui donnent des grands coups de ballon dans un, je sais plus, c'est un vitrail ou enfin c'est effrayant.
C'est
quoi,
effrayant. Le manque de respect et de considération parfois sur du patrimoine me laisse pantois. J'étais posé. Alors, à la ville, il faudrait que je m'en souvienne, j'étais posé assis devant cette fameuse cathédrale, je crois, ou église, qui était en pleine restauration. Donc, il y avait des échafaudages, les sculptures étaient endommagées, les architectes du bâtiment de France faisaient le tour pour essayer de mesurer les travaux à faire. Et là, une bande de jeunes, 3-4 jeunes, il me semble, qui jouent au ballon sur cette place, ont commencé à tirer à bout portant sur la façade de cette abbaye.
À Saint-Gilles.
À Saint-Gilles, voilà. L'abbaye de Saint-Gilles, tout à fait. C'est une abbaye, je crois, qui a plus d'un millénaire maintenant. Et ils ont commencé à envoyer le ballon contre les fameuses sculptures en restauration, en pleine restauration, et des bouts de pierre en giclée de là. Moi, ça m'a fait terriblement mal. Parce que tout le travail que font les architectes, les municipalités et les simples citoyens comme moi, tous les jours, eh bien à côté, il y a ceux qui cassent, qui volent, qui ne respectent pas du tout ce patrimoine qui est en déclin.
Et en l'occurrence, c'est classé monument historique, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui. Voilà, plus.
Oui, ce qui veut dire que c'est pas protégé, finalement. Parce que c'est quand quelque chose est inscrit, malgré tout, il faudrait qu'on puisse pas s'approcher avec son ballon et bon.
Oui, le problème, c'est que la protection, pour l'UNESCO, mais la protection, c'est souvent un titre qui permet d'avoir des financements, des subventions, d'avoir une reconnaissance, mais elle ne protège pas vraiment l'édifice, le patrimoine. Hein. La preuve, à Saint-Gilles, protégé, monument historique, et c'est pas pour autant que trois petits jeunes on fait marche arrière devant la façade.
Alors la cabane des maraîchers à Aisine, vous en avez parlé, les baraques de Barcarès.
Alors pareil, c'est baraque de pêcheurs, de baraque de catalans, je crois. Oui, c'est ça. C'est un peu l'esprit catalan qui était derrière tout ça. Et j'ai rencontré donc la présidente de l'association qui entraîne les jeunes à reproduire les cabanes. C'est-à-dire à reconstruire les cabanes qui permettent de résister à des vents de plus de 100 km/h et qui permettaient aux pêcheurs, après avoir remonté leur filet ou leur canne, venir se réfugier et travailler leurs poissons. Donc un environnement, tout de la musique, de la gastronomie, des couleurs qui sont liées à ça, et la présidente m'en a fait l'étalage.
Et il y en a une de ces cabanes, la cabane de Coudelder, qui est classée monument historique depuis 1994.
Oui, voilà, monument historique, qui est classé monument historique. Mmh. Alors, le classement, comme je le disais, c'est une belle reconnaissance qui permet maintenant aussi de perpétuer la tradition. Cette présidente, grâce à cette reconnaissance, permet d'avoir des financements et constituer les classes et les écoles, en tout cas une filière éducative sur le thème, sur le domaine de la reconstruction d'une cabane de pêcheurs. Donc ça aide, il y a des points positifs et des points négatifs sur le classement.
La poudrerie royale de Saint-Chamas.
Alors, poudrerie royale de Saint-Chamas. Alors,
on a envie, après vous avoir lu Mohamed Bekkada, de faire tout le tour, en effet, par les franges, par les frontières et les côtes, et d'aller justement, ça, alors peut-être pas à pied, mais en tout cas d'arriver dans les villages et comme ça de s'installer et de regarder ce que vous faites très bien.
Oui, c'est vrai. Mais alors, à Saint-Chamas, j'ai été... J'ai eu la chance d'entrer. Il faut savoir que la poudrerie est fermée, hein, à tout public, hormis les archéologues qui étaient présents et les membres de la municipalité qui peuvent y accéder. C'est fermé, car c'est plusieurs hectares. C'est une poudrerie qui s'étend sur plusieurs hectares, et la plupart de ces hectares sont fermés, mais aussi la nature a repris ses droits. Qu'il y a des espèces d'oiseaux qu'on ne retrouve que là-bas, une végétation abondante. On y est entré grâce à un 4x4, hein, comme si nous étions en pleine Amazonie. Et j'ai découvert une équipe d'archéologues qui était en train de travailler sur cette poudrerie-là. J'ai eu la chance de m'entretenir avec eux. Ils m'ont raconté l'histoire de la poudrerie. Et le travail qu'il mettait en place depuis plusieurs années. Leur objectif, c'est de rouvrir au public cette poudrerie-là et d'en narrer l'histoire. Moi, c'est ce que je souhaite aussi, car le patrimoine ne peut vivre qu'à travers les yeux des passionnés et des citoyens qui l'entourent. Donc c'est important de l'ouvrir aujourd'hui, la poudrerie.
Et le château de Séchilienne ?
Le château de Séchilienne a été la plus grande trouvaille de mon tour de France. Grâce à une famille qui m'a gentiment accueilli, j'étais arrivé dans la ville, je devais même pas m'arrêter dans cette ville-là parce que j'avais rien trouvé dans la ville précédente, et je me suis dit bon, je vais m'avancer de 5-6 kilomètres supplémentaires, et une famille me demande ce que je fais là en pleine rue à essayer de planter ma tente, il me propose de bien vouloir dormir chez eux. Et il me raconte l'histoire de ce château, le château de Séchilienne. Alors, ils m'ont dit, si tu n'as pas pu le voir, c'est parce qu'il est caché derrière la végétation. Donc le demain, nous irons à sa rencontre. J'y suis allé et ça a été la plus belle trouvaille de mon tour de France. Un château à moitié abandonné, à moitié, ruiné, mais un château du XVe siècle. Nous observons encore la façade et les tours de ce château complètement abandonnées. Alors, Séchilienne est une ville de quelques centaines d'habitants. Je comprends qu'elle n'ait pas les moyens d'arrêter la saignée de ce patrimoine, arrêter la destruction de ce patrimoine. Mais pourquoi la région, pourquoi le département ne s'en charge pas aujourd'hui?
On est où là, en montagne? On est vers...
Nous sommes dans l'Isère, pas loin de Grenoble. Mmh. Montagne, vallonnée, oui, mais pas tellement en montagne.
Vous y êtes le 19 septembre, vous êtes, depuis quelques jours, vous êtes passé par Colmar, les Alpes. Là, vous avez évité, il me semble que vous ne parlez pas d'un petit pâté. Moi, j'ai un souvenir d'un pâté délicieux, une pâtisserie à Colmar, les Alpes. Après, vous passez à la Food à l'os. Barcelonnette, là c'est le Mexique, Barcelonnette, et puis Saint-Martin-de-Querrière, La Grave, Mont-de-Lance, Séchilienne. Le lendemain, vous serez à Vauglan, et là alors vous avez une découverte gustative, un pain. Mais attendez, je ne veux pas vous... Revenons à Séchilienne, avant d'arriver à la boulangerie.
Alors pour Séchilienne, faut savoir que c'est un château donc comme je disais du 15e siècle qui est construit comme une forteresse parce que c'est un milieu assez vallonné mais pas montagneux. En 1920, le château devient une société d'électrochimie qui se procure ce château. En 1940, il est incendié par les Allemands car les Allemands pensent que certains résistants sont cloîtrés là-bas dedans. En 1949, il devient une propriété de la ville, enfin, pour quelques francs symboliques. Mais en contrepartie, la société d'électrochimie devait remettre le financement pour la restauration. Mais elle est partie avec l'argent, et bon, on connaît la suite. Au début des années 20, le château entame une lente agonie. Malheureusement, les pierres tombent tous les jours, les tours s'écroulent. Et aujourd'hui, il est même très dangereux de s'en approcher. Donc la plupart des habitants de Séchilienne ne connaissent même pas l'histoire de leur château et ne peuvent pas l'approcher.
Mais vous dites que les adjoints de la mairie pensent que votre démarche les a fait réfléchir. Et finalement, ce jeune Mohamed Bekada qui arrive à pied comme ça avec sa charrette de 65 kilos derrière lui et qui a envoyé des mails auxquels pas grand monde a répondu, finalement, il peut être plus ou moins bien accueilli, mais au bout d'un moment, bon, on se dit il est sympathique. Puis finalement, eh ben, ce qu'il aime, c'est le patrimoine. Et c'est notre patrimoine dans chaque région, dans chaque hameau, comme ça, ou village, qu'il est bon de défendre. Et pas seulement un week-end par an.
Ils se sont engagés. C'est vrai qu'ils se sont engagés à au moins redonner un nouvel aspect visuel, esthétique à l'édifice. Donc, le sécuriser et permettre à tous ceux et celles qui s'en approchent de le voir. Donc couper tous les arbres et couper tout ce qu'il y a autour qui empêche sa visibilité. Il y a beaucoup de monuments, je pense, bon, plus haut, Carcassonne, à Brou, monastère de Brou, qui aujourd'hui est
à Bourg-en-Bresse,
qui est parmi l'un des plus beaux monuments. Mais Carcassonne, c'est pareil, on donnait très peu d'espoir il y a encore 200 ans à ce monument-là. Et aujourd'hui, c'est devenu le site touristique par excellence du sud de la France. Et pourquoi pas Séchilienne un jour. Donc il faut regarder espoir et il faut travailler pour lui redonner un nouvel éclat.
Bon, bah, ça sera peut-être grâce à vous, et certainement même Mohamed Bekada, puisque tout le monde peut lire maintenant. La France méconnue, 6645 kilomètres à pied à la découverte de notre patrimoine. C'est publié chez Pocket. Et puis, quiconque feuilletera rapidement la table des matières peut voir qu'il y en a pour, non pas toutes les régions, bien entendu, mais encore une fois, toutes les frontières, toutes les côtes, et puis tout ce qui fait que la France a cette tête, c'est un hexagone. Et on le savait, mais on a envie de partir à votre suite. On peut le faire en voiture, on peut le faire autrement, d'une manière moins sportive que vous l'avez faite, Mohamed Bekada. Merci en tout cas.
Merci à vous.
Eh bien, cette nuit du patrimoine se poursuit, puisque l'on va entendre une édition spéciale chef-d'œuvre en péril. Tiens, congrès annuel des vieilles maisons françaises, c'était à l'abbaye de Royaumont, une émission de Pierre de la Garde, qui date de 1963. Et puis, on poursuivra avec une émission que Paul Ajac et Jacques Pogam avaient proposée en 1974 sur France Culture, dans les après-midi de France Culture. Et le sujet, c'était « Faut-il démolir la prison de la Petite Roquette ?» Et oui, il y avait une des prisons de Paris qui était encore debout, qui était en tout cas architecturalement qui était très belle. Simplement, qu'allait-on en faire? On sait aujourd'hui qu'elle a disparu. Donc en tout cas, la question se posait, faut-il la conserver et qu'en faire, évidemment. Et puis suivra une émission de Julie Gacon sur la route des bâtisseurs de châteaux dans l'Yonne. Vous avez pu rencontrer aussi des gens qui travaillent tout un été, comme ça, des jeunes qui viennent.
Jeunes, oui.
Voilà, qui viennent des...
À m'entendre.
Voilà. À m'entendre, joli nom aussi. Et puis on terminera par une conférence que René Maheu avait donnée en 1969 sur la préservation des sites et des monuments historiques. Merci Mohamed Bekada.
Merci beaucoup.